au 99.1-88.9-CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Lundi 10 novembre, j'espère que vous avez passé une bonne journée malgré la grisaille, puis... Le réveil, ma foi, fort difficile avec la neige ce matin. C'est un petit peu décourageant. À l'émission aujourd'hui, Guillaume Tremblay sera avec nous, maire de Mascouche et président de l'UMQ. Il sera question d'une nouvelle pomme de discorde entre les municipalités et Québec. Pierre Paquette avec nous aussi. On va parler des déboires du Parti conservateur de Pierre Poilievre avec Mathieu Bélanger, notre analyste politique. Il sera question de l'arrivée de Sol Zanetti comme co-porte-parole de Québec solidaire. Avec nous également, Patricia Rivet, présidente du Conseil central CSN Lanaudière. Il sera question du décès en fin de semaine de Francine Rangé, une femme influente pour Lanaudière. La députée libérale provinciale de Mille-Îles est porte-parole de l'environnement et de l'habitation au Parti libéral. Là, Virginie Dufour sera avec nous. Elle était de passage aujourd'hui du côté de Terrebonne. Et aussi, on va débuter cette émission en parlant santé, sujet qui retient beaucoup l'attention dans l'actualité. Particulièrement depuis hier soir, là où des milliers de médecins étaient réunis au Centre Bell pour clamer leur insatisfaction face à la loi 2, et surtout là sur les mesures coercitives là que cette loi prévoit contre les médecins qualifiés de non performants. Et la présidente de l'Association des médecins omnipraticiens, Laurentie de Lanaudière Lynn Couture, était là hier soir au Centre Bell et elle s'est même adressée à ses collègues. François Morin a eu l'occasion de lui parler aujourd'hui.
De s'unir, hein, les médecins, tout le monde ensemble, tous les médecins, présents et futurs, parce que, vous savez, ce qu'on fait là comme combat, là, c'est vraiment pour maintenir et idéalement améliorer les services de santé de la population. Nous autres, ce qu'on fait là, c'est vraiment pour que les patients puissent avoir de l'accès et des services de qualité. Alors, on avait besoin de s'unir puis de sentir qu'on n'était pas tout seul dans notre combat. Et je pense que dans cette perspective-là, ça a fait du bien aux médecins dont le moral est au plus bas actuellement, là. Alors, il y avait effectivement là ce besoin-là, mais ne perdons pas le fait que ce combat-là, pas pour la poche des médecins, mais c'est vraiment pour les services de santé, pour les patients. C'est ça au final.
Le message demeure le même, c'est qu'on a besoin de ressources pour arriver là, à atteindre nos objectifs, parce que tout le monde s'entend que le mode de rémunération doit être revu, c'est sur la façon de faire.
Ben exactement, vous avez tellement raison, on est tout à fait d'accord, nous autres, puis ouverts à changer le mode de rémunération. Puis vous savez, les indicateurs, on est ouverts à en prendre, mais on veut des indicateurs de qualité, parce que c'est ça que les patients veulent, ils veulent pas être un numéro, une pastille de couleur, puis être traités comme du volume. Puis ça, là, toutes les grandes organisations l'ont reconnu, Collège des médecins, toutes les organisations savantes, même le comité d'experts appointé par le ministre.
Est-ce qu'on peut dire, si je me fie aux commentaires que j'ai entendus au cours de la fin de semaine, c'est que il y a quand même eu certaines avancées. Votre collègue chez les spécialistes, Dr. Olivol, disait il y a quand même eu des avancées au niveau du Conseil du Trésor. L'éléphant dans la pièce, ça serait Christian Dubé.
Ben écoutez, je pense que malheureusement, M. Dubé n'a plus la confiance des médecins au Québec. Alors, on est capable de se parler. Puis vous savez, nous, là, ce qu'on veut, là, c'est régler ça, là. Parce que il y a une urgence de régler ça. Parce qu'actuellement, on est en train de perdre des médecins qui ont perdu confiance. Alors là, il faut stopper ça. Il faut absolument qu'on soit capable de se reparler puis de trouver des solutions. Vous le mentionnez, là. On n'est pas si loin, en plus. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on peut s'entendre sur des grands principes. Le restant, là, confions ça à l'arbitrage. Suspendons ça. Arrêtons l'hémorragie. Parce que la population, là, est tannée d'entendre parler du niaisage puis des chicanes. Puis nous autres aussi. Nous autres, ce qu'on veut, là, c'est travailler. Puis voir des patients.
Il n'y a pas si longtemps, on se disait, vous et moi, qu'il y avait effectivement, là, certains de vos collègues qui avaient commencé à manifester le désir de déserter. Est-ce que c'est appliqué dans certains cas?
Absolument. J'aimerais vous dire que non. Puis je suis pas en train d'encourager les gens à déserter, loin de là. Au contraire, puis je pense que justement, ce rassemblement-là, c'était pour dire, regardez, restons ici, restons unis, gardons le cap pour avoir un meilleur système de santé. On ne le laissera pas se faire démolir par la loi 2. Alors, nous, ce qu'on veut, là, c'est garder nos forces, là. On veut pas que les médecins partent, au contraire, on veut qu'ils restent. Mais vous me demandez, est-ce qu'il y en a qui sont partis? Certainement. Malheureusement, oui, j'en ai qui sont partis.
Est-ce que depuis le rassemblement de la fin de semaine, le gouvernement vous a donné signe de vie? On prévoit des rencontres bientôt?
Écoutez, je suis pas complètement dans le secret des dieux. Alors là-dessus, je vais passer la parole à notre négociateur ou aux gens de la fédération. Je pourrais pas vous dire si répondre à cette question-là.
Et en attendant, quel est le message qu'on continue à livrer à nos patients?
Ben écoutez, que nous autres, là, on va continuer à faire de notre mieux à chaque jour, avec chaque patient qu'on voit. On va continuer à être là avec tout notre cœur et tout notre professionnalisme pour les traiter. Et puis que ce qu'on veut, ultimement, c'est de s'assurer de pouvoir continuer à faire ce qu'on fait à tous les jours. Et qu'on va se battre pour garder un système de santé qui nous permet de soigner nos patients correctement. Puis on le sait, là, il y a un problème d'accès. Mais en général, vous le savez, hein, les patients disent quand on est rentré dans le système, on a un bon service. La loi 2, malheureusement, ce qu'elle est en train de faire, c'est pas plus d'accès, puis moins de services une fois rentré. Fait que non, ce qu'il faut, c'est améliorer l'accès. On est d'accord avec le gouvernement pour ça. Mais pour ça, il faut attirer du monde en santé. Il faut attirer des infirmières, des médecins, plein d'autres professionnels. Fait que travaillons ensemble sur ça, puis on lâchera pas parce que la santé du monde, là, c'est trop important. Nous autres aussi, on est des patients. Nous autres aussi, on a des familles.
Ah, c'était la docteure Lynn Couture, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides Lanaudière, qui a pris part hier à cette grande manifestation au Centre Bell. Dans les prochaines minutes, Virginie Dufour, députée libérale provinciale de Mille-Îles et porte-parole du Parti libéral en matière d'environnement et d'habitation, qui était de passage aujourd'hui dans Lanaudière.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Barnabé-Sud, BMR Express, à Saint-Jude, Marché Omni, à Saint-Hugues, Marché Bonichois des Îlets, à Saint-Simon-de-Bagotte, dépanneur épicerie de chez nous, à La Présentation, dépanneur La Présentation, à Drummondville, dépanneur Sonic sur la 110e avenue, épicerie Lausière, pharmacie Jean Coutu, à Saint-Charles-de-Drummond, pharmacie Jean Coutu et à Nicolet, les délices d'Audrey-Rainville. Station-service Shell, sur le boulevard Louis-Fréchette. Pharmacie Jean Coutu et dépanneur Royal. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Hey, tu veux laver tes vitres? Appelle donc G-Vite. C'est le spécialiste en lavage de vitres. Lavage à pression aussi disponible. G-VIT au 450-559-6928.
Après les lunchs, le soccer, puis le ménage, ben j'ai mon voyage. Puis ça tombe bien, parce que Super C t'accueille à bord du concours J'ai mon voyage. Cours la chance de gagner l'un des 5 crédits voyage de 10 000 $. Pour embarquer, t'as juste à acheter un produit participant puis présenter ta carte moi à la caisse ou en ligne. C'est le temps de troquer la boîte à lunch pour la valise. Puis manque pas ton vol, le concours prend fin le 19 novembre. Aucun achat requis, 18 ans et plus, détails et conditions au superc.ca. Hey, c'est super, Super C.
Les membres de la coopérative funéraire de Matawini-Montcalm sont convoqués à l'Assemblée générale annuelle le mardi 25 novembre 2025 à 19h au 2545 rue Eugène-Marsan, Sainte-Julienne. Il y sera présenté le rapport annuel ainsi que les états financiers. Pour plus d'informations, consultez notre site Internet au cfmm.coop.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier, proprio direct.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Repentigny, Saint-Côme, Saint-Jean-de-Matin.
La visitation de l'île du Pape.
CFNJ, 99.1, 88.9.
Chez nous, on s'en laisse point poser. La musique américaine, on n'en joue plus.
La Naudière PM. Politique provinciale.
Le Parti libéral du Québec poursuit ses tournées thématiques dans les régions et aujourd'hui, ben, c'était au tour de la députée de Mille-Îles du côté de Laval, Virginie Dufour, porte-parole de l'environnement et de l'habitation, notamment avec le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, qui est donc ont discuté du délicat dossier de l'enfouissement de polluants éternels et Pierre Jubinville lui a parlé.
Oui, comment se fait-il que des municipalités comme Mascouche se retrouvent aux prises avec un tel type d'enfouissement?
C'est une excellente question. Moi, de ce que justement on a eu comme échange avec le maire, il nous expliquait qu'en Ontario, la Défense nationale a dû traiter les terres, les sols avant de les enfouir parce que c'était ce que les normes ou la réglementation provinciale obligeait en Ontario. Mais au Québec, il n'y en a pas de normes. Il n'y a toujours pas aucune réglementation qui encadre les PFAS, à l'exception des boues usées. Mais là, ce n'est pas le cas. On parle de sols contaminés. Et ce que ça fait, c'est que le fédéral est libre de tout simplement les enfouir sans les traiter. Maintenant, pourquoi ça part de la base de Bagotville pour venir à Mascouche? C'est parce que le fait de les enfouir sans devoir les traiter coûte moins cher. S'ils les enfouissaient dans le coin au lac Saint-Jean, là, il faudrait qu'ils soient traités. Là, ça coûterait plus cher. Donc c'est vraiment une question de coût, finalement. Étonnamment, là, pour le fédéral, ils ont pris finalement ce qui leur coûtait le moins cher. S'il y avait eu des normes en place au Québec, ben c'est pas exactement le scénario qu'on aurait vu. Là.
Les polluants éternels, Mme Dufour, comportent quand même un problème pour la santé publique?
Ah, tout à fait. Vous savez, aux États-Unis, c'est là, en fait, que ça a commencé, qu'on s'en est rendu compte. Aux abords des sites qui produisaient des PFAS, il y a eu des contaminations majeures, des cheptels d'animaux de ferme qui décédaient parce qu'ils buvaient de l'eau contaminée, des employés qui développaient des cancers, des problèmes de fertilité. Et là, ça a pris des décennies avant que on constate vraiment l'enjeu. Il y a eu des poursuites aux États-Unis, mais maintenant, on le sait. Alors, pourquoi le Québec ne fait rien, ou du moins, pourquoi il attend autant? Moi, j'ai déposé à l'Assemblée nationale au printemps dernier un projet de loi pour encadrer les PFAS dans les sources d'eau potable et les sites d'enfouissement, là, le lixiviol, là, le jus qui sort des sites d'enfouissement, qu'il soit contrôlé, analysé pour faire un portrait de la situation, parce qu'actuellement, on ne sait pas les endroits où c'est contaminé. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a un chercheur de l'Université de Montréal, Sébastien Sauvé, qui lui a fait un échantillonnage d'environ 400 sites et il a découvert des contaminations. Mais c'est pas le gouvernement du Québec qui a fait cet exercice-là. Et il y a un paquet d'autres sites qui n'ont pas été testés. Et donc, on le sait que c'est un enjeu de santé important. En France, ils ont légiféré, en Europe, mais nous, on attend. Je ne sais pas ce qu'on attend, mais... Malheureusement, ça va avoir un coût de santé publique.
Vous avez parlé avec le maire de Mascouche de d'autres, évidemment, enjeux, tels les logements. Qu'est-ce que le Parti libéral va proposer dans sa plateforme?
Ah bien, écoutez, on est en train de la faire, la plateforme. Donc, toutes ces tournées qu'on fait vont aussi alimenter notre réflexion sur la plateforme. Donc, je peux pas vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il va y avoir dans la plateforme parce qu'on est en train de s'alimenter de avec tous les partenaires. Puis, tu sais, on est 20 députés à l'Assemblée nationale, mais il y a aussi notre chef, Pablo. Et on est en tournée constante à travers le Québec pour justement les capter. Puis il y a aussi, vous savez, le parti politique lui-même, la commission politique qui va aussi faire du travail pour essayer justement d'établir cette plateforme-là. Donc, c'est trop tôt pour dire qu'est-ce qu'on va voir dedans, mais ce qui est clair, c'est qu'on est en action pour la faire, la plateforme, pour être prêt lorsque les élections seront déclenchées.
Croyez-vous qu'il est possible de rattraper les retards dans la construction de logements sociaux?
Écoutez, les logements sociaux, l'enjeu actuel qui freine le plus les projets, ce sont les coûts. Les coûts de construction ont vraiment explosé suite à la pandémie. Et ça, il faut se questionner. Et Unité qu'on a visité, c'est un exemple qui est possible de construire à moindre coût. Et ils ont vraiment mis une logique d'affaires dans la construction des logements. J'ai retrouvé ça dans d'autres. Il y a d'autres OBNL qui ont appliqué des logiques similaires qui ont permis de construire plus vite, moins cher. Il faut vraiment se questionner là-dessus parce que les fonds n'étant pas illimités, si on veut construire davantage, ben il va falloir réduire les coûts parce que autrement ça n'arrive pas, l'équation marche pas là. Et ça va aussi éventuellement pour le privé, hein, parce que quand on construit actuellement les logements, la moyenne c'est 400 000 $ la porte. Ben une hypothèque là de 350 000, 400 000, ça revient cher par mois là. Même si c'est pas, tu sais, si on fait un loyer, ben ça va être très cher. On est dans les 2500 par mois et plus, que très peu de gens peuvent se payer. Donc on n'a pas le choix, il va falloir agir sur les coûts pour être capable de rendre finalement accessible et les logements abordables, la construction, mais aussi l'accès à la propriété pour les jeunes ménages.
La députée libérale provinciale de Mille-Îles, du côté de Laval, Virginie Dufault, je vous rappelle qu'elle est porte-parole de l'environnement et de l'habitation. Elle était de passage aujourd'hui dans Lanaudière.
Lanaudière PM. Société.
Francine Ranger, cette femme engagée dans le syndicalisme lanaudois et cofondatrice du réseau des femmes élues de Lanaudière, nous a quitté en fin de semaine. Conseillère municipale à Lavaltrie, elle avait indiqué dans la foulée de sa défaite il y a une semaine qu'elle allait se reposer et prendre soin d'elle. Eh bien, François Morin a eu l'occasion d'échanger un peu plus tôt avec celle qui lui a succédé à la tête de la CSN Lanaudière, Patricia Rivet.
Patricia Rivet, donc on doit déplorer le départ d'une grande dame, une grande lanaudoise fort impliquée, c'est Francine Ranger. Vous lui avez succédé justement à la présidence de la CSN Lanaudière. Qu'est-ce qu'on retient là de Francine Ranger?
En fait, toute personne qui rencontrait Francine comprenait après pas très longtemps que c'était une femme de cœur puis une passionnée, mais surtout une femme déterminée. Elle avait vraiment toutes les qualités là pour être une bonne militante, autant à la CSN, autant que comme citoyenne, citoyen là. Cette détermination là a fait d'elle, oui, une présidente exceptionnelle, mais aussi pour toute la population en général là. T'sais, on l'a vu s'impliquer dans sa municipalité comme conseillère municipale pendant plusieurs années aussi. Là, elle avait vraiment l'âme d'une militante, puis elle se battait depuis des décennies pour la classe ouvrière. D'ailleurs, Francine était préposée aux bénéficiaires, elle a été longtemps dans un CHSLD, mais tout au long de sa vie, là, ça fait des décennies qu'elle s'impliquait. Elle a été déléguée de son syndicat, présidente de son établissement. Ensuite, elle est arrivée vice-présidente au Conseil central. Puis en 2012, elle a été élue là, à la présidence du Conseil central. Puis là, elle s'est donnée comme elle s'est toujours donnée. Mais c'était difficile de dire non à Francine. Francine, c'est une personne déterminée. Puis quand elle avait une idée en tête, même si les gens autour ils disaient « Ah, oh, pas sûr, ça va-tu fonctionner? Je sais pas. » Francine trouvait toujours les arguments pour réussir à défendre son point, mais surtout défendre les personnes qu'elle représentait, là, vraiment. Tu sais, on parle juste dans son premier mandat, la Série Saint-Michel, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les années 2013-2014, la Série Saint-Michel, bon, là, on vit des moments encore difficiles à cause de nos voisins, là, mais avec le bois, mais la Série Saint-Michel avait quand même fait faillite deux fois, tout le monde disait que c'était la fin, on avait 50 employés qui travaillaient plus, 50 familles à Saint-Michel-des-Saints qui se retrouverait sans revenus. Bien, Francine, avec l'aide de d'autres personnes à CSN, elle a dit, bien, nous, on va refaire quelque chose avec ça, puis c'est clair. Puis on avait fait une coop dans le temps avec la Série Saint-Michel. On avait impliqué des entreprises de la région à investir dans la Série. Là, aujourd'hui, le modèle financier a changé. Il y avait même des employés qui avaient deux fois qui perdaient leur job, qu'on les a convaincus à investir une partie de leur salaire. Puis aujourd'hui, c'est avec, puis il y a plein de gens qui disaient à Francine, puis à la, ben voyons, on réussira pas. Puis elle avait dit, on va réussir. On a réussi, puis aujourd'hui, la Série a doublé, triplé, puis il y a encore des employés.
Ouais, est-ce qu'on peut dire que Francine Ranger sert maintenant de modèle au niveau du syndicalisme?
Tout à fait, c'est un modèle incroyable. Moi, ça a été pour moi un modèle. Francine, pour moi, ça a été un mentor exceptionnel. Elle était toujours là, elle était toujours là pour moi, même là. une dizaine de jours, elle me donnait encore des conseils sur un dossier qui est ressorti, puis elle a toujours été là pour moi, pour toutes les personnes avec qui elle a travaillé. J'avoue que je dois beaucoup à Francine de où je suis rendue comme militante aujourd'hui. Puis c'était pas juste une collègue de travail, là. C'était une grande amie pour moi dans ma vie. C'est une grande perte pour la région. C'est une femme qui a laissé sa trace. Grâce à son dévouement et sa persévérance, là, elle a aidé vraiment de nombreuses femmes, mais aussi beaucoup d'hommes à améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions de travail là, tous les jours. C'est certain que ces actions continueront de nous inspirer dans la région de la Naudière pour un monde plus équitable, là, c'est ce qu'elle aurait voulu.
Elle a quitté la CSN pour se consacrer à une carrière politique au niveau municipal. Elle a également fondé le réseau des femmes élues de la Naudière, mais à travers tout ça, continuait à s'intéresser aux affaires syndicales.
Ben oui, tout à fait. Ça faisait partie de sa vie. Elle nous disait toujours que c'était sa CSN. Donc, pour elle, là, la CSN, c'était tout. Elle y croyait comme personne d'autre. Elle s'est toujours impliquée, puis elle restait toujours au fait, puis impliquée là-dedans. Puis, mais effectivement, le réseau des femmes élues, c'est quelque chose qui tenait vraiment à cœur, qu'elle a pris en main, puis qu'elle a parti, puis qu'elle a développé. Elle avait lâché dernièrement, mais elle avait resté là comme mentor pour les personnes qui étaient présentes parce qu'elle croyait qu'il n'y avait pas encore d'assez de femmes au niveau politique, mais aussi au niveau des conseils d'administration, des exécutifs de syndicats. Pour elle, elle disait qu'il faut avoir une équité puis il faut être présente, mais il faut se donner les moyens de pouvoir le faire. Fait qu'elle, c'est pour ça qu'elle croyait en au réseau des femmes élues.
Ben voilà, c'était Patricia Rivet. Patricia Rivet, je rappelle qu'elle est présidente du conseil central CSN de la Naudière. Les questions donc du décès en fin de semaine de Francine Ranger, une grande dame influente pour la région de la Naudière.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ah, moi, j'aime ça, des petits lundis comme ça, c'est assez facile. Métropolitaine pour Charles de Gaulle, un peu dans le secteur du boulevard Henri Bourassa. La traversée facile vers la rive nord. Je regarde Repentigny, c'est fluide. Par contre, la 341, là, entre la 40 et la rivière des Mille-Îles, non pas des Mille-Îles, mais la rivière de l'Assomption, là, ça demeure quand même passablement dense. Le pont Le Gardeur, oui, très facile, autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. 25 Nord, Laval, ça va très bien. Terrebonne également, pont Sophie-Masson, c'est libre. Et finalement, autoroute 640, assez facile dans les deux directions entre la 25 et la 40. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Saviez-vous qu'avec Promutuelle Assurance, une soumission en ligne se fait encore plus vite qu'un café latté? Gagnez du temps là, avec notre soumission en ligne rapide. En seulement 4 minutes, vous obtiendrez un prix pour assurer votre auto, maison, condo, appart, moto, motoneige, VR ou tout autre véhicule. Des prix qu'on aime, vite de même, c'est pas étonnant qu'on nous recommande autant. Demandez dès maintenant votre soumission en ligne sur promutuelleassurance.ca/rapide. Les conditions s'appliquent. Promutuelle Assurance et la 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 la.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Un ongle incarné récalcitrant vous fait souffrir? La matrixectomie permet d'extraire de façon permanente et sans douleur la bordure incarnée de l'ongle. Prenez rendez-vous 450-398-PIED 398-7433 ou podiatrejoliette.com.
Devenez membre à vie au coût de 20$ à la coopérative funéraire de Matawinie-Montcalm et obtenez 10% de rabais sur tous nos produits et services. La coopérative funéraire de Matawinie-Montcalm, 450-886-3763 et 450-839-3450.
Hey! Tu veux laver tes vitres? Appelle donc G-Vitres. C'est le spécialiste en lavage de vitres. Lavage à pression aussi disponible. G-VIT au 450-559-6928.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier Proprio Direct.
Amateurs de musique trad, le groupe Artify sera en spectacle le 20 décembre prochain à l'échappée Grill et Bar Sportif. Détails et billets en vente directement en restaurant au 710 Visitation Saint-Charles-Borromée. Faites vite, les places sont limitées. Ah ouais donc!
Pierre Jubinville qui a un gros sourire aux lèvres. Il aime autant l'hiver que moi. Hein?
J'adore.
Salut Pierre. Salut. Pas trop déprimé.
Non, mais le temps est assez moche.
On va rendre hommage à Francine Rangé, qui va être décédée en fin de semaine.
Oui, ça va se passer samedi, excusez, au complexe funéraire Guilbeault, à Lavaltrie. Les portes vont ouvrir à 10 heures. La cérémonie funèbre aura lieu à compter de 15 heures. Celle qui lui a succédé à l'époque à la tête de la CSN, Patricia Rivet, nous a indiqué comment le mouvement syndical a imprégné la vie de Francine Rangé.
Elle, elle nous disait toujours que c'était sa CSN. Donc, pour elle, là, la CSN, c'était tout. C'était, elle y croyait comme personne d'autre. Elle s'est toujours impliquée, puis elle restait toujours au fait, puis impliquée là-dedans. Puis, mais effectivement, le réseau des femmes élues, c'est quelque chose qui tenait vraiment à cœur, qu'elle a pris en main, puis qu'elle a parti, puis qu'elle a développé.
On va revenir sur cette grosse manifestation au Centre Bell en fin de semaine là, des médecins. Une pointe d'ailleurs aujourd'hui là, du premier ministre François Legault à l'endroit des médecins.
Oui, tout pour réunir les partis ben autour oui. d'une table. Alors, au lieu d'organiser un grand rassemblement au Centre Bell, M. Legault demande aux fédérations de revenir à la table des négociations.
J'aimerais que les médecins, au lieu d'être au Centre Bell, délèguent leurs représentants pour venir discuter avec le gouvernement. Ce qu'on veut discuter, c'est comment on peut donner un meilleur accès. Puis ce qu'on souhaitait, puis ce qu'on souhaite toujours, c'est de discuter du comment, des modalités avec les deux fédérations.
La présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides de la Naudière, la Dr Lynn Couture, s'est adressée pour sa part à ses collègues, les invitant à faire preuve d'unité.
De s'unir, hein, les médecins, tout le monde ensemble, tous les médecins, présents et futurs, parce que, vous savez, ce qu'on fait là comme combat, là, c'est vraiment pour maintenir et idéalement améliorer les services de santé de la population. Nous autres, ce qu'on fait là, c'est vraiment pour que les patients puissent avoir de l'accès et des services de qualité. Alors, on avait besoin de s'unir puis de sentir qu'on n'était pas tout seul dans notre combat.
D'autre part, François Legault a présenté aujourd'hui en grande pompe la stratégie économique de son gouvernement.
Oui, c'est Claude la guerre tarifaire avec les États-Unis qui force le gouvernement à revoir sa stratégie économique. L'heure est grave, affirme d'ailleurs le premier ministre qui dit vouloir agir de façon musclée afin que le Québec puisse passer au travers la crise.
Donald Trump bouleverse complètement notre économie, se disant très inquiet. François Legault souligne à grands traits que les entreprises d'ici ont cessé d'investir, qu'une récession se dessine et qu'il est donc urgent d'agir.
On dépose une nouvelle vision économique parce que le monde a changé.
Notre économie souffre, alors il faut adapter notre stratégie, clame le premier ministre, qui veut notamment accélérer les grands projets d'infrastructure, qui souhaite aussi que la Caisse de dépôt augmente ses investissements au Québec.
Il faut vraiment avoir un plan agressif pour remplacer les emplois.
Et il veut également profiter de l'opportunité du domaine de la défense, soulignant même qu'il n'est pas impossible qu'on soit un jour attaqué.
C'est pas utopique de penser qu'on pourrait, dans les prochaines années, avoir à se défendre.
Philippe Bonneville pour Cogeco Nouvelles.
Bon, maintenant, Pierre, une autre chicane entre indépendantistes. C'est oui. pas nouveau, ça.
Non, c'est fréquent. Oui. La querelle qui s'intensifie entre le Parti québécois et Québec solidaire, le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, a montré du doigt Québec solidaire, qui vient d'élire Zol Zanetti comme co-porte-parole.
Si vous regardez dans le dernier mois et demi, là, le nombre d'interventions de Québec solidaire qui porte sur le Parti québécois, c'en est à la limite de l'obsession. Je doute pas là, des intentions indépendantistes de Zol Zanetti, mais je constate malheureusement que pour tenter d'extirper un profit politique et se faire valoir, ce que Québec solidaire fait, sur certains sujets où on n'est pas d'accord, comme les niveaux d'immigration ou la laïcité, Québec solidaire fait des campagnes de peur.
Il faut rappeler que Zol Zanetti est issu du parti Option nationale, qui était un parti indépendantiste. Là.
Avec M. Hossan à l'époque.
Oui, Jean-Martin Hossan.
Oui, oui. Zol Zanetti, justement, Claude accuse le PQ, lui, de ne pas être rassembleur.
Ce qu'on reproche en ce moment à l'approche du Parti québécois, c'est des positions sur l'immigration, la laïcité, l'inclusion générale qui pourraient faire perdre le camp du oui. C'est des positions qui excluent au lieu d'être des positions qui rassemblent. On n'est pas les seuls à penser ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'indépendantistes qui sont tannés de cette voie-là du Parti québécois qui est en rupture avec son héritage.
Scène municipale maintenant, Pierre, les villes dénoncent le mur à mur en immigration.
Oui, c'est une nouvelle pomme de discorde entre le monde municipal et le gouvernement. L'Union des municipalités accuse le gouvernement d'avoir mis en place de nouvelles normes sans consulter les régions. On écoute le président et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.
Mais aucunement, il faut savoir que depuis le début, le monde municipal se mobilise et on dit il faut régionaliser l'immigration. Donc arrêtons de nous donner des cibles nationales, mais travaillons plus sur des cibles régionales. On comprend que Montréal, c'est un contexte exceptionnel. Mais moi, pour parler souvent, par exemple, avec mon collègue de Thetford Mines, il me dit qu'indirectement, on va fermer énormément de commerces de ce côté-là parce que on pense pas à la régionalisation au niveau de l'immigration.
Et puis finalement, le Canada qui n'a plus le statut des pays là, qui ont éliminé la rougeole.
Le Canada qui recule. Le statut, justement, était détenu depuis 1998. L'Organisation panaméricaine de la santé constate qu'une épidémie touche plusieurs provinces, principalement dans les communautés sous-vaccinées. On pense à l'Alberta. Le docteur Carl Weiss, qui est microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal.
La vaccination a quasiment éradiqué la rougeole, là où les taux de vaccination étaient très élevés. Et on s'aperçoit qu'il y a une chute de la couverture vaccinale au Québec, au Canada, depuis quelques années. Même si la couverture vaccinale est encore en haut de 85%, on va dire. Mais dans certaines poches de la population, elle peut être beaucoup plus basse. Hein.
Bien, merci beaucoup, Pierre Jubinville.
Merci, Claude. Bonne soirée.
Il est 16h37.
Au 99.1, 88.9, CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 88.9.
Lanaudière PM politique provinciale.
Oui, on en discutait tout à l'heure avec Pierre Jubinville de Sol Zanetti, un souverainiste convaincu de longue date qui est devenu en fin de semaine le co-porte-parole masculin de Québec solidaire. Et si Québec solidaire tente de profiter de la vague en faveur de l'option de l'indépendance, il n'est pas question de s'allier au PQ pour Québec solidaire. Et François Morin en a discuté avec notre analyste politique Mathieu Bélanger.
C'était une des candidatures fortes, évidemment, parmi les trois personnes candidates au poste de co-porte-parole là, de Québec solidaire. Mais Sol Zanetti avait un certain ascendant sur le parti. Rappelons qu'il était le chef d'Option nationale avant sa fusion de cette formation-là avec Québec solidaire. Donc, c'est pas une énorme surprise, cela dit. Plusieurs des membres du caucus, en fait, de Québec solidaire, avaient préféré un autre candidat, Étienne Grandmont. Même Manon Massé était sorti dans les médias dans les derniers jours pour donner son appui à Étienne Grandmont. Et donc, c'était plutôt lui qui était jugé comme étant le favori. Sol Zanetti n'avait aucun député actuel de Québec solidaire qui lui avait donné son appui formel ou public. Elle a eu certains appuis d'anciens députés ou d'anciens co-porte-parole comme Émilise Lessard-Terrien qui avait démissionné en critiquant là, le style de leadership de Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, c'est pas complètement une surprise que Sol Zanetti gagne, mais c'était pas écrit dans le ciel.
Et il est reconnu là par tous les partis politiques, toutes les formations, comme étant effectivement un souverainiste convaincu. Et là, où il y a une cassure, c'est que le Parti québécois et Québec solidaire sont, je dirais pas irréconciliables, mais il y aura jamais d'unité entre les deux partis, là.
C'est pas à court terme, en tout cas, pas à moyen terme non plus. À long terme, tout est toujours possible. Effectivement, Sol Zanetti, ayant été le chef d'Option nationale, un parti résolument indépendantiste, il y a personne qui peut remettre en question les convictions indépendantistes de M. Zanetti. C'est même, au contraire, le signe qu'une volonté pour les militants de Québec solidaire de se tourner vers un discours plus indépendantiste encore pour cette formation politique-là, l'élection là, de Sol Zanetti comme co-porte-parole. Dans ce contexte-là, bien, ça fait en sorte que certaines différences avec le Parti québécois s'amenuisent, avec le discours résolument indépendantiste aussi de Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. Et en ce sens, c'est pas étonnant dans notre système politique, avec notre mode de scrutin, que les deux formations politiques tentent d'encore plus montrer quelles sont les différences qu'ils ont pour faciliter le choix des électeurs qui peuvent être indépendantistes, par exemple, de décider, bon, est-ce que je vote pour le Parti québécois ou pour Québec solidaire? C'est le propre de notre mode de scrutin que les formations politiques vont toujours tenter de plus faire valoir leurs différences plus que leurs similitudes. Et c'est ce qu'on voit un peu là, d'autant plus que le Parti québécois est en avance de façon solide depuis un certain temps, mais continue à avoir une base fragile dans le sens où l'appui envers la souveraineté lui-même n'est pas à la hauteur de ses espérances. Et donc, on sent que les choses pourraient basculer. En ce sens, ben, on veut consolider son vote. Une des façons de le faire, c'est que maintenant que Québec solidaire prend un virage plus indépendantiste, ben, de montrer cette différence-là pour pousser les électeurs péquistes à rester au PQ.
Est-ce que le duo Gazal-Zanetti saura effectivement là faire monter la ferveur souverainiste et se démarquer véritablement du Parti québécois?
D'un point de vue des indépendantistes, ce duo-là a un gros avantage, c'est-à-dire de permettre peut-être à ce qu'il y ait deux véhicules clairs qui portent l'option de la souveraineté du Québec. Et donc, si effectivement on se dirige vers un référendum, ben il y a peut-être des gens qui vont se dire je peux avoir mes opinions politiques et appuyer une des deux formations politiques et que ces partis-là, lorsque une campagne référendaire sera lancée, ben ces deux partis-là pourront s'appuyer ponctuellement à ce moment-là, un peu de la même façon qu'on l'avait vécu en 1995 entre l'alliance tripartite entre le Parti québécois, le Bloc québécois et l'Action démocratique du Québec. C'est donc quelque chose qui est imaginable. Et même si au sein des troupes, tant péquistes que solidaires, il y a beaucoup d'animosité, et qu'au sein des militants, la même chose, mais autant au sein des électeurs, des électrices, qui sont pas nécessairement militants dans une formation politique ou l'autre, on sent que c'est une volonté de rapprochement. Et donc, encore une fois, le jour où une campagne référendaire est lancée, on peut imaginer qu'à ce moment-là, il y a certains rapprochements, et certainement que d'avoir deux co-porte-parole pour Québec solidaire qui mettent vraiment plus de l'avant le discours souverainiste peut être facilitant en ce sens-là.
Et est-ce que ce duo-là sera ramené, si on veut, dans les bonnes grâces de l'électorat, le parti, parce que dans les sondages, ça va vraiment pas bien, ça va même de mal en pis?
Effectivement, c'est ça le défi premier. Depuis le début de notre entretien présent, on discute qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a une campagne référendaire qui arrive. On n'est pas là. Il faut d'abord qu'il y ait une élection d'un gouvernement souverainiste, peu importe sa formule. Et ben, pour l'instant, dans les intentions de vote, c'est excessivement difficile pour Québec solidaire. Le défi de Québec solidaire, c'est de continuer à avoir au moins quelques députés. Semble-t-il que les militants, de toute évidence, font le pari que d'avoir un co-porte-parole actuellement résolument indépendantiste peut être quelque chose de favorable. Clairement que les militants sentent qu'il y a une vague souverainiste, qu'il y a un vent souverainiste qui souffle présentement. Reste à voir si ça va se maintenir jusqu'au jour du vote et éventuellement dans une campagne référendaire. Mais c'est le pari qu'on fait pour être capable de remonter dans les sondages, de se laisser porter finalement par ce vent-là et d'y contribuer pour regagner l'appui populaire. On tente de régler les chicanes qu'on a connues au sein de Québec solidaire qui ont mené au départ de Gabriel Nadeau-Dubois et bon de changer, de moderniser le programme politique également. C'est un des chantiers justement que Gabriel Nadeau-Dubois avait mis en œuvre avant son départ. Ben, reste à voir si tout ça va fonctionner d'ici un an. Comme d'habitude, il reste énormément d'inconnus.
Voilà, c'était notre analyste politique Mathieu Bélanger sur l'arrivée de Sol Zanetti comme co-porte-parole chez Québec solidaire. Si vous voulez mon opinion là-dessus, je vais me permettre de m'avancer un petit peu sur Québec solidaire. Ce parti-là aura certainement beaucoup de difficultés et lors de la prochaine élection, si on regarde présentement les projections de QC 125, on aurait peut-être un ou deux députés pour Québec solidaire. Ça sera pas facile. Québec solidaire qui risque de traverser une période très, très difficile encore pour les prochaines années. Mais Québec solidaire va certainement reprendre de l'importance. Il faut que ce parti-là demeure en place parce que c'est quand même un parti de gauche très important. Si, advenant une victoire du oui dans un prochain référendum sur la souveraineté. Alors là, on reviendra au clivage gauche-droite et c'est là que Québec solidaire reprendra beaucoup d'importance. Il est 16h45 dans un instant, Pierre Paquette.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Édouard-de-Masquinongé, Quincaillerie Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule-Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beau-Soir, à Saint-Paulin-Boucherie 4 Saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, Dépanneur Régional et Dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Saviez-vous qu'avec Promutuelle Assurance, une soumission en ligne se fait encore plus vite qu'un café latté? Gagnez du temps là, avec notre soumission en ligne rapide. En seulement 4 minutes, vous obtiendrez un prix pour assurer votre auto, maison, condo, appart, moto, motoneige, VR ou tout autre véhicule. Des prix qu'on aime, vite de même, c'est pas étonnant qu'on nous recommande autant. Demandez dès maintenant votre soumission en ligne sur promutuelleassurance.ca/rapide. Les conditions s'appliquent. Promutuelle Assurance et la 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 la.
CFNJ. Avec vous partout via l'application CFNJ sur vos appareils Android et Apple.
Hey, tu veux laver tes vitres? Appelle donc G-Vitres. C'est le spécialiste en lavage de vitres. Lavage à pression aussi disponible. G-VIT au 450-559-6928.
À CFNJ. Voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre, comment ça va?
Ça va bien, et toi?
Ben ça va très bien. Là où ça va pas très bien, c'est au Parti conservateur. Petite question, Pierre. Lorsque tu étais député fédéral de la circonscription de Joliette pour le Bloc québécois, est-ce qu'il t'est arrivé dans ton bureau à Ottawa que le whip du parti rentre dans ton bureau pour te donner un char de trois petits coins? De trois petits points, oui.
Non, c'est jamais arrivé.
C'est parce que c'est ce qui est arrivé au député Chris d'Entremont qui a quitté le Parti conservateur pour se joindre au Parti libéral. C'en était trop. Et là, il y a Andrew Scheer. On a appris ça aujourd'hui qu'Andrew Scheer, qui est leader en chambre de l'opposition officielle, donc du Parti conservateur, qui est entré dans son bureau avec le whip du parti, Chris Walkertain, et ils lui ont donné un char.
Oui, il semble même qu'ils ont bousculé l'adjointe administrative,
ben oui.
Donc ils étaient vraiment en furie. Et puis ils l'ont traité de traître, de toutes sortes de choses. Et d'après ce que dit M. D'Entremont, c'est ce qui l'a conforté dans sa décision de quitter le Parti conservateur puis d'aller du côté des libéraux. Moi, je pense qu'il y a sûrement beaucoup de vrai là-dedans parce qu'on connaît les conservateurs. Moi, je connais personnellement Andrew Scheer, puis je pense que c'est quelqu'un qui peut arriver à ces excès-là, là, sentant la pression monter. Parce qu'il faut bien voir là que bon, Chris D'Entremont a quitté les conservateurs, mais il y a aussi Matt Generous, qui est un député de l'Alberta, qui a annoncé qu'il démissionnait du Parti conservateur.
Ouais, là, on a appris ça la semaine dernière, mais lui se joint pas aux libéraux.
Non,
il siège comme indépendant pour le moment.
Ouais, mais les rumeurs veulent qu'il était intéressé à rejoindre les libéraux, mais quand il a vu justement la réaction du Parti conservateur face au départ de Chris D'Entremont, il a revu sa décision et il a décidé de partir en février. Et il y a beaucoup de rumeurs qui circulent autour du fait que ça serait pour taire certaines choses que Monsieur Generous aurait pu faire, là, des squelettes dans le placard, comme on dit, ou encore une somme d'argent alléchante au mois de février quand il va quitter définitivement. C'est des rumeurs, là, je peux pas confirmer ça, mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'il n'a pas décidé de rejoindre le Parti libéral de façon délibérée. On l'a forcé d'une façon ou d'une autre, soit en l'achetant, soit en le menaçant, à ne pas le faire, et donc il va quitter la politique. Il y aurait peut-être 3 à 4 autres députés conservateurs qui seraient dans la même situation, donc qui sont actuellement craintifs de la réaction de la direction du Parti conservateur. Tout ça fait en sorte que le leadership de Pierre Poilievre est vraiment ébranlé, alors que c'est le gouvernement qui devrait être à la défensive parce qu'il a déposé son budget puis il est toujours à court de la majorité pour le faire adopter. Ben là, c'est le Parti conservateur, l'opposition officielle, qui se trouve dans l'eau chaude avec une crise interne qui semble pas vouloir se calmer.
Mais si tu veux mon avis, Pierre, on parle ici là carrément de harcèlement psychologique, même de, ça va même au-delà de ça, c'est carrément de la violence, si on se fie aux propos de Chris d'Entremont, là, quand Andrew Scheer et Chris Walkerton là, rentrent dans ton bureau et se mettent à gueuler et à bousculer du personnel, c'est carrément de la violence. Et que ce soit en politique ou dans n'importe quel milieu professionnel, ça passe pas.
Ben oui, exactement. J'ai pensé tout de suite qu'il pourrait déposer une plainte à la CNSST, mais évidemment, ça n'existe pas au niveau fédéral. Mais
Travail Canada, oui.
N'importe quel employeur a l'obligation d'assurer un climat de travail qui soit sain. Et manifestement, le Parti conservateur actuellement, la direction du Parti conservateur ne remplit pas ces conditions-là. Donc, c'est non seulement...
c'est un climat de travail toxique.
Toxique, exactement. Et puis, c'est un mauvais employeur. Et puis, je pense que ce climat toxique-là est en train d'envenimer les problèmes que Polièvre a. Et moi, très sceptique devant sa capacité de gagner son vote de confiance en janvier prochain.
Ben, c'est justement la question qui s'en venait. Est-ce qu'en février, Pierre Poilievre sera encore chef du Parti conservateur?
Ben, moi, je vois pas comment, si ça continue sur cette trajectoire-là, il va être en mesure de convaincre la majorité de son caucus qu'il est l'homme de la situation, là, parce que manifestement, plus les jours passent, plus son leadership se dégrade. Ça a commencé, évidemment, avec l'entrevue qu'il a faite à propos de Justin Trudeau, qui aurait dû être emprisonné, puis que la GRC n'a pas fait sa job, puis des propos délirants. Mais là encore, dans le communiqué suite au départ de M. d'Entremont, puis de son entrevue en fin de semaine, le porte-parole du Parti conservateur a dit que c'est un menteur qui va rejoindre d'autres menteurs. Ça fait que c'est pas, disons, une réaction que je pourrais qualifier de saine, absolument pas. Et donc, moi, je pense que ça va s'envenimer au cours des prochaines semaines.
C'est de la politique à la Donald Trump et ça passe pas au Canada.
Non, ça passe pas. Puis on dirait que M. Poilievre n'arrive pas à comprendre ça. Et puis c'est une des raisons, je pense, qui fait que d'Entremont a quitté le caucus conservateur et que d'autres veulent quitter le caucus conservateur. Peut-être pas nécessairement pour aller rejoindre les libéraux, mais ils se sentent pas à l'aise dans cette façon trumpiste de diriger le parti. Les conservateurs, il faut se rappeler que c'est une coalition où il y avait des progressistes conservateurs, et ces progressistes conservateurs-là, ce qu'on appelle les Red Tories, là, ben ils sont de plus en plus mal à l'aise avec M. Poilievre. Alors, ça va finir par éclater.
Bon, chose certaine, c'est que les libéraux poursuivent sans doute leur campagne de grande séduction, là.
Oh, sûrement. Là, ils sont plus qu'à deux voix de la majorité. Pas simplement pour le budget, là, pour être capable de gouverner 4 ans. Et ça, c'est un argument qui est important. C'est-à-dire que la personne ou les personnes qui vont quitter, que ce soit les conservateurs, je n'ose pas dire le Bloc québécois, mais le NPD, ou même la députée verte, qui s'en va chez les libéraux, leur donnant la majorité dont ils ont besoin, ça veut dire que Carney va gouverner le gouvernement fédéral, le Canada, pendant les 4 années qui viennent.
Non, mais donc, quand tu parles du Parti vert, là, oublie ça. Là. Les politiques libérales sont tellement éloignées de celles du Parti vert, surtout en ce moment avec Mark Carney. Là, peut-être à l'époque de Trudeau, là,
peut-être qu'il peut promettre bien des choses qui ne s'avéreront pas vraies. Mais pour essayer d'attirer quelqu'un, je pense qu'il est prêt à bien des choses. Mais il y avait des rumeurs même qu'il y aurait quelqu'un au Bloc qui serait intéressé, mais j'ose pas y croire. J'ai pas de nom, mais ça a circulé qu'il y avait un député au Bloc qui serait peut-être intéressé à passer du côté des libéraux, mais j'ai pas eu plus de développement de ce côté-là.
Bon, on va suivre ça dans l'actualité, là, parce que ça risque de faire jaser, puis j'imagine que le mois de novembre là, risque d'être très difficile pour Pierre Poilievre.
Oui, puis les mois à venir aussi, là, jusqu'au mois de janvier, quand il y aura le vote sur son leadership, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir encore beaucoup de rebondissements.
Merci Pierre Paquette.
De rien, on se reparle mercredi.
Lanaudière PM, Affaires municipales.
Ouais, une nouvelle pomme de discorde entre le monde municipal et le gouvernement du Québec. L'Union des municipalités du Québec accuse le gouvernement d'avoir mis en place là, des nouvelles normes sans consulter les régions. Et François Morin a échangé là-dessus avec le président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.
Alors, Guillaume Tremblay, donc, nouvelle sortie de l'Union des municipalités du Québec. Cette fois, c'est dans le dossier de l'immigration. On n'est pas très d'accord, mais là, même pas du tout d'accord avec les dernières orientations qui ont été annoncées là par le ministre Roberge.
Mais aucunement. Il faut savoir que depuis le début, le monde municipal se mobilise, puis on dit il faut régionaliser l'immigration. Donc, arrêtons de nous donner des cibles nationales, mais travaillons plus sur des cibles régionales. On comprend que Montréal, c'est un contexte exceptionnel. Mais moi, pour parler souvent, par exemple, avec mon collègue de Thetford Mines, il me dit qu'indirectement, on va fermer énormément de commerces de ce côté-là parce que on pense pas à la régionalisation au niveau de l'immigration. Je le répète, une ville en région, puis la réalité de Montréal, Laval est complètement différente. Donc, c'est pas pour rien qu'on se positionnait, demander d'avoir une régionalisation.
Ben justement, c'est pas toujours très bon, le mur à mur.
Ben non, c'est vraiment pas bon. Puis, tu sais, il y a des exemples, par exemple, en Mauricie, la capacité d'accueil, elle est présente, elle est là. Maintenant, c'est pas normal que la cible de la Mauricie soit décidée par le gouvernement du Québec quand que les régions n'ont pas été rencontrées. Donc, pour nous, c'est ce qu'on demande depuis le début, c'est d'asseoir avec les milieux. Puis l'intégration, là, pour avoir parlé, puis là, je parle beaucoup parce qu'au niveau de l'UMQ, c'est Marc-Alexandre Brousseau qui est responsable, le maire de Thetford, puis j'en parle beaucoup. Mais lui, il est connecté sur son monde, puis la francisation, l'accueil, l'intégration, ça fait de façon A1. Et là, présentement, ça met en péril des dizaines d'entreprises dans son coin de pays. Et là, lui, il lance un cri du cœur à toutes les rencontres du conseil d'administration pour nous dire c'est une mauvaise prétention, là, présentement, de mettre des cibles nationales et de ne pas s'assurer d'avoir des cibles plus régionales.
Parce que là, on va regarder le portrait régional dans la Naudière. Il y a plusieurs entreprises qui ont manifesté justement à l'égard du gouvernement du Québec une certaine insatisfaction, demandant à tout le moins qu'on conserve les quotas actuels.
Exact. Puis de garder aussi les gens qui sont déjà là. Là. Il y a des gens qui travaillent dans ces coins-là, qui ont acheté des maisons, qui ont commencé à se faire une vie, là, et ont rencontré des gens. Je veux dire, ça va être des drames humains là, qu'on va faire vivre à ces gens-là. Donc, tu sais, au pire qu'on ait une nouvelle vision pour le futur, mais au moins présentement, sur le présent, il y a des réalités peut-être un peu plus différentes à évaluer. Là.
On regarde globalement la stratégie du gouvernement. Est-ce que je me trompe en disant qu'il n'y a pas tendance à effectivement consulter beaucoup, peu importe le champ d'activité?
Ben ça, je vais laisser le gouvernement y répondre. Nous, ce qu'on dit depuis le début, cependant, c'est que s'il vous plaît, il faut régionaliser ces cas-là. Puis je le répète, là, c'est des drames humains qui sont en arrière de tout ça, mais des drames aussi d'entreprises, de petites et moyennes entreprises qui, présentement, ils travaillent fort pour survivre, mais là, ils vont arriver avec un autre défi en soi, là, la perte d'employés. Donc, c'est pas pour rien qu'on demande, puis on le fait depuis 2 ans là, environ que l'UMQ se mobilise, parce que il y a 2 ans, le gouvernement du Québec avait changé d'abord, à cet égard-là, on a continué à garder le cap là-dessus. Mais là, aujourd'hui, il est obligé de vous dire qu'on se doit de mettre de la pression plus que jamais parce que ça sera pas évident.
Je vais poser ma question autrement. Est-ce qu'on effectivement, on a espoir que le gouvernement change d'idée parce que jusqu'à maintenant, là, il semble camper dans ses positions?
Ben moi, je pense que le gouvernement du Québec est un gouvernement que le développement économique, c'est important pour eux. Et je le sais que pour eux, c'est un enjeu prioritaire. Maintenant, moi, je vous réponds que l'immigration dans ces régions-là, c'est un levier vital pour soutenir l'économie. Donc, j'ose espérer que sur cet aspect-là, le gouvernement va prendre un changement de cap.
Donc, ça prend des rencontres là rapidement.
Tout à fait.
Voilà, c'était le maire de Mascouche et président de l'UMQ, Guillaume Tremblay. Ici Claude Fournel, merci d'avoir été là pour la Naudière PM. Je salue nos collaborateurs François Morin, Pierre Jubinville, Mathieu Bélanger, ainsi que Pierre Paquette. Manquez pas dans un moment de l'autre côté de l'actualité de 17h, Nicolas Bellemare et le 5 à 7 trad de CFNJ. On se retrouve demain, 16h, pour un autre la Naudière PM. Salut!